France Culture. Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La liberté d'expression, l'expression justement, est partout dévoyée par beaucoup de celles et ceux qui la revendiquent même. Mais qu'est-ce qui fait la singularité du modèle français de la liberté d'expression? Que nous enseignent textes et jurisprudence? Que nous apprend également la façon dont la justice est rendue à ce sujet? Pour en parler ce soir, une invitée, Anna Arzoumanoff. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en linguistique et littérature française à Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste de la liberté d'expression sous l'Ancien Régime et à l'époque contemporaine. Et vous venez de faire paraître aux éditions Actes Sud, cet ouvrage intitulé « Juger les mots, liberté d'expression, justice et langue » dans une nouvelle collection intitulée « La compagnie des langues ». Et avec moi pour m'accompagner dans cette interview, comme chaque mercredi, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes, je le rappelle, directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir. Va-t-il tuer la pensée? Voilà la une de l'hebdomadaire Le 1, Julien. Pourquoi ce choix cette semaine?
Eh bien, puisque l'administration Trump a décidé de bannir quelques 200 mots de son vocabulaire ou de menacer les chercheurs qui les utiliseraient, depuis genre à climat ou égalité, eh bien ces mots, nous les publions, nous les défendons dans un grand poster à afficher et nous les questionnons avec l'éclairage notamment de la directrice de l'Institut Pasteur, Yasmine Blekaïd, ou encore le traducteur d'Hitler, Olivier Manoni, que vous avez reçu dans cette émission.
La voix est donnée alors à celui qui veut peut-être tuer la pensée, Donald Trump.
Après des années et des années d'efforts fédéraux illégaux et inconstitutionnels pour limiter la liberté d'expression, je signerai un décret qui mettra un terme immédiatement à toute censure gouvernementale et qui rétablira la liberté de parole en Amérique.
Alors justement, puisque vous êtes spécialiste, Anna Arzoumanoff, de la liberté d'expression, comment vous expliquez que celui qui s'en défend, celui même qui a fait de la liberté d'expression un programme, une vision de société, commence peut-être dans les premières semaines de son mandat par interdire certains mots à la recherche scientifique?
Alors c'est tout le paradoxe de Donald Trump qui se dit en effet défenseur de la liberté d'expression pour justement condamner toute régulation des discours de haine, mais tout en étant finalement un censeur lui-même, donc la régulation juridique il n'en veut pas. En revanche, il souhaite une régulation politique et fondée sur l'idéologie. Au nom de l'anti-wokisme, il interdit des mots.
Julien Bisson.
Alors peut-être on va parler de la liberté d'expression à la française, peut-être revenir un instant juste sur cette liberté d'expression à l'américaine. En quoi est-ce qu'elle est différente de chez nous?
Alors, en fait, elle est différente de chez nous parce qu'elle est dite absolutiste, la liberté d'expression aux États-Unis. Elle est fondée sur le premier amendement qui, en réalité, autorise presque tout. À part la diffamation, on a le droit de faire un salut nazi. On en a vu très récemment des personnalités politiques faire des saluts nazis. En France, c'est interdit. Aux États-Unis, c'est autorisé parce que l'opinion est libre. Et donc voilà, ce type de discours sont tout à fait autorisés.
Alors, retour en France, puisque vous êtes spécialiste, je disais, de la liberté d'expression sous l'Ancien Régime, notamment en France. Et je voudrais citer une autre linguiste, l'une de vos collègues, Cécile Alluy. Elle s'exprimait le 16 mars dernier dans le journal La Croix. Et elle disait, en France, nous sommes aujourd'hui confrontés à deux types d'extrême droite. L'une, le péniste, incarné par Sarah Knafo et Éric Zemmour, ou encore Marion Maréchal, qui ont tendance, eux aussi, à subvertir la langue, à créditer des fake news, tordre la réalité par des affirmations péremptoires, voire la révision de pans entiers de l'histoire. Chez eux, comme chez Trump, on retrouve cette volonté d'accroître la charge émotive et violente de la langue. L'autre extrême droite française, celle du Rassemblement National, a normalisé son discours. Elle l'a adouci, aplati même pour qu'il n'effraie plus personne. Est-ce qu'en tant que linguiste, vous aussi cette distinction à partir du langage, utilisant le langage comme prisme d'interprétation des différentes extrêmes droites, vous paraît pertinent?
Alors ce qui est sûr, c'est que je ne peux vous répondre que du point de vue des décisions de justice. Il se trouve que quelqu'un comme Éric Zemmour est très souvent condamné. Donc on voit bien ici qu'on a un déploiement de discours de haine, en tout cas qui sont caractérisés comme des discours de haine, comme chez Donald Trump, là où Jordan Bardella ou Marine Le Pen ne sont pas condamnés. Donc on voit bien que dans ces poursuites judiciaires, il y a bien deux RN, deux tendances, un qui a normalisé son discours et donc correspond aux critères actuels de la justice, là où l'autre partie, au contraire, a tendance à dépasser les limites.
Julien Bisson.
Pour ce que vous le citez, Éric Zemmour, est-ce qu'il utilise le langage de cette façon, de façon sciemment, ou est-ce qu'il cherche quand même des façons de contourner les limites à la liberté d'expression pour faire passer ses idées ?
Alors, ce qui est intéressant quand on travaille sur la liberté d'expression, c'est que on devient spécialiste d'Éric Zemmour, qui se retrouve devant les tribunaux plusieurs fois par an. D'ailleurs, on a eu deux décisions qui ont été rendues aujourd'hui même concernant Éric Zemmour. Alors donc, je vais commenter ces décisions dans un second temps. Mm-hmm. Tout d'abord, je voudrais dire que oui, Éric Zemmour s'est vanté à un certain moment de jouer avec les critères de la loi, notamment un critère que l'on peut appeler le critère de l'extension. Il faut, pour un discours de haine, viser l'intégralité d'une communauté qui est définie par une nation, par exemple, dire ou par une nationalité, dire tous les musulmans, tous les immigrés musulmans. Donc Éric Zemmour, à un moment, se vantait en disant « Moi, j'ai compris, je connais le mot magique, il suffit de dire la plupart et je ne serai pas condamné, alors que tout est le mot maudit. »
Je vous coupe parce qu'on a un son qui illustre exactement ce que vous venez. Il est à propos.
Éric Zemmour sait précisément où se situe la ligne à ne pas franchir. Il l'a même écrit, noir sur blanc, dans son dernier ouvrage, à propos d'une de ses sorties en 2020 sur CNews.
Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont.
J'avais pourtant dit le mot magique. J'avais dit « la plupart des mineurs isolés sont délinquants, voleurs, violeurs ». À deux reprises, je l'avais répété, ce mot magique. « La plupart ». C'est le sésame ouvre-toi. C'est le moyen d'échapper aux condamnations judiciaires.
Cela résonne vivement, fortement, même Anna Arzoumanoff, avec ce que vous disiez sur ce critère de l'extension.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas présent, Éric Zemmour a été condamné donc pour ses propos sur les mineurs isolés. En fait, c'était lors d'une interview, l'intervieweuse l'a poussé à dire tous, justement pour lui dire la plupart, mais il avait dit tous juste avant. Et les tribunaux, donc ce qui est intéressant, c'est que le tribunal a cité Éric Zemmour, qui se vantait de ce mot magique, pour contrer sa stratégie. Donc on voit bien ici une sorte de stratégie de contournement des critères de la loi, mais en même temps, ici, il a été pris à son propre piège.
Alors sur la liberté d'expression, j'ai appris justement en préparant cette émission qu'une nouvelle chambre s'est ouverte à Marseille, car il y a de plus en plus de contentieux. Comment on explique cette tendance à la hausse et surtout quelle forme prend-elle ?
Alors, en fait, c'est très simple. C'est parce que cette tendance à la hausse est liée aux réseaux sociaux. Donc avant, il n'y avait pas cet espace de discours. C'est une même loi, qui est une loi qui est très vieille, qui date de 1881, donc qui régit et réglemente les discours publics en France. Mais depuis les réseaux sociaux, les discours il y a de plus en plus de discours produits et surtout un déferlement des discours de haine qui n'aura échappé à personne.
Et est-ce que justement cette hausse des discours modifie la façon de rendre la justice ? Est-ce que la justice est rendue de la même façon que si le phénomène se passe dans la vie réelle ou bien sur Internet ?
Alors c'est difficile de vous répondre aussi, enfin de manière très tranchée, mais le contexte compte énormément. Donc dans la loi, on peut poursuivre n'importe quel type de discours selon les différents supports. En revanche, les juges apprécient le contexte dans lequel le propos est émis.
Julien Bisson.
Concrètement, alors quels sont les délits langagiers prévus par la loi ? On a bien compris qu'on n'était pas aux États-Unis, qu'on ne pouvait pas tout dire. En France, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire ? Quels sont les délits ?
Alors, les délits, en fait, ils ne sont pas si nombreux que ça, je ne vais pas tous les citer, mais les délits principaux qui sont prévus par la loi de 1881, il y a l'injure, en fait, c'est une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, la diffamation qui consiste à imputer des faits, mais en portant atteinte à la réputation d'autrui, ou encore la provocation à la discrimination et à la haine, donc envers une communauté définie par une race, une religion, ou bien même une orientation sexuelle ou un genre.
Et ce sont les mêmes délits depuis 1881, ou est-ce que ça a évolué ?
Alors, donc il y a, par exemple, l'injure et la diffamation sont là depuis 1881, mais il y a une loi qui a été promulguée en 1972, c'est la loi Pleven, qui a permis d'étendre les infractions aux discours discriminatoires.
Ce qui est passionnant dans votre travail, dans votre ouvrage intitulé, je le rappelle, « Juger les mots, liberté d'expression, justice et langue », c'est que vous décomposez, vous décortiquez la façon dont les juges s'accaparent du sujet de la liberté d'expression. Et vous expliquez qu'il y a en gros trois temps justement dans ce travail des juges, et que le premier d'entre eux, c'est l'identification de la cible des discours de haine. Pourquoi commencer par là, par ce travail de l'identification, et surtout comment il se déroule, comment il se passe ?
Alors, parce que en fait, toutes ces infractions que je viens de définir, elles sont toutes fondées sur la question de d'avoir un discours qui rejaillit, qui porte préjudice soit à un individu, soit à une communauté. Donc, ça va de soi que pour pouvoir caractériser une infraction, il faut absolument identifier cet individu ou cette communauté. Donc, ce que je montre dans mon livre, c'est que identifier une communauté, ça paraît simple a priori, mais finalement, ce n'est pas toujours si simple. Et c'est pour ça, je voudrais rebondir aussi sur les listes de mots de Donald Trump. On voit, en fait, mon livre montre bien que raisonner à partir de mots, ça ne fonctionne pas parce que ça peut mener à des décisions absurdes. Donc, par exemple, dans mon livre, j'ai essayé de montrer que il faut normalement avoir des mots humains qui renvoient à des humains pour pouvoir condamner, mais donc par exemple dire des musulmans plutôt que l'islam, dire l'islam est une religion et la religion la plus con, comme le dit Michel Houellebecq en 2002, n'est pas condamnée parce que c'était un mot abstrait qui ne vise pas une communauté définie par la loi. En revanche, il y a des cas où les juges vont plus loin, c'est-à-dire que les mots, ils vont au-delà des mots pour montrer que la référence est plus complexe que le seul examen des mots, le seul examen du dictionnaire semble le laisser penser. Par exemple, lorsqu'on Christine Boutin dit « l'homosexualité est une abomination », ici, les juges vont dire « en fait, certes, on a un mot abstrait, ça vise une entité abstraite. Pourtant, ce sont bien les homosexuels qui sont visés ici. » Donc on voit bien qu'il s'agit d'aller au-delà des mots et des mots dans le dictionnaire.
Un autre cas qui m'avait semblé intéressant en lien direct avec ce que vous dites, c'est lorsque NTM avait dit « nique la police ». Pourquoi « nique la police » avait été condamné alors que la police, elle a aussi une institution, et j'allais dire une institution de l'ordre théorique ?
Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que l'infraction, c'était l'outrage à agent. Donc pour cela, il faut que les agents, qu'il y ait des agents identifiés. Or, on voit bien que dans le rap, en général, on a un discours anti-système. NTM disait à la fois, je nique la police et je nique la justice. Enfin, si je me souviens bien, c'est j'encule la justice. Donc on voit bien ici qu'on a un discours anti-système caractérisé. Mais pour autant, comme il y avait des policiers dans la salle, et puis également les policiers ont dit que un des membres de NTM les avait montrés du doigt. Donc ça voulait dire que ce n'était pas la police comme institution, ce qui n'est pas condamnable, qui était visé, mais des policiers. Et dans ce cas-là, c'est condamnable.
Julien Bisson.
Deuxième étape dans ce travail des juges que vous évoquez dans votre ouvrage, la caractérisation des énoncés. Comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui relève de l'injure, de la diffamation ou des autres délits que vous avez évoqués ?
Alors, ce que j'ai essayé de montrer, c'est tous les cas complexes. C'est ça qui m'intéresse. Il y a des fois où c'est très facile. Par exemple, pour la diffamation, il faut alléguer des faits qui portent atteinte à l'honneur. Donc, si on impute une infraction pénale, par exemple, si je vous dis que vous avez violé votre voisin ou si j'ai dit que vous avez volé dans les caisses de l'État, là, ce sont des infractions. Donc, ça porte atteinte à la réputation. Et autrement dit, c'est facile à caractériser. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça va bien au-delà, en fait. Ce qui porte atteinte à l'honneur ou à la réputation, c'est aussi tout ce qui s'écarte de la norme. Et c'est là, évidemment, que la question de l'interprétation est fondamentale, dans la mesure où le juge doit se représenter la norme et ce qu'est la déviance par rapport à la norme pour pouvoir dire que ça porte atteinte à la réputation.
La troisième étape qui est confiée peut-être au juge en charge de ces questions de liberté d'expression, c'est cette question: quelle est la liberté offerte à la satire et à la fiction? En effet, si j'affirme que Julien a effectivement volé dans les caisses de l'État, je pourrais très bien arguer, si je me retrouve devant un juge, qu'il s'agissait en réalité de fiction et que j'écrivais peut-être le début d'un mauvais roman.
Alors oui, c'est une question à laquelle les juges doivent répondre. Donc la satire ou la fiction, ce sont deux exemples que j'ai essayé d'aborder dans mon livre. Alors si on prend l'exemple de la fiction, il y a certains qui plaident en faveur d'une excuse totale pour la fiction, à savoir dire, bah voilà, c'est une fiction. Donc il y a une distanciation intrinsèque à la fiction. Donc tout ce que je dis, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Mais les tribunaux parfois refusent cette excuse de fiction. La question s'est posée notamment pour Orelsan. Donc Orelsan qui a fait l'objet de deux procédures judiciaires distinctes pour provocation au meurtre envers les femmes et injure envers les femmes. Et Orelsan a fait valoir l'excuse de fiction en disant mais d'accord, donc mes propos sont bien des injures à l'égard des femmes, sont bien des provocations au meurtre à l'égard des femmes. Cependant, quand je chante, je joue un rôle, donc j'incarne un personnage et donc je ne le prends pas au premier degré. Donc il faut que le spectateur s'en distancie.
Le directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1, Julien Bisson.
Oui, Anna Arzoumanoff, dans votre essai Juger les mots, vous évoquez aussi la question difficile de la métonymie. Pourquoi est-ce que c'est difficile parfois justement d'aller, pour les juges, d'aller traquer ce qui, certains mots sont dits, mais c'est d'autres mots qui veulent être exprimés?
Alors justement, c'est ce qu'on vient de voir pour le cas de police, pour NTM, c'est typiquement un cas de métonymie, je dis police. Donc la métonymie, je rappelle, c'est lorsqu'il y a un glissement de référent. Donc par exemple, je bois un verre, ici on voit bien que c'est le contenu du verre et non pas le verre. Je rappelle juste ce qu'est une métonymie. Donc dans le cas de la police, on dit, c'est l'institution judiciaire et puis un glissement vers les policiers. Et il y a des cas où c'est extrêmement complexe. Par exemple, une personne qui fait un tract dans lequel il est écrit « Islam assassin ». Donc « Islam assassin », si vous avez bien compris les critères que j'ai mobilisés, j'ai le droit de dire ce que je veux sur l'islam dans la mesure où c'est une religion, le blasphème est autorisé en France. La question que se posent les juges, à partir du moment où ces propos sont poursuivis, est de savoir si c'est bien l'islam qui est visé dans ce cas-là. Ça ne pose pas de problème. Ou bien s'il y a une métonymie, c'est-à-dire que l'on passe de l'islam aux musulmans. Et donc ici, on voit bien que le terme d'assassin, qui donne des propriétés humaines à l'islam, permet ce glissement. Donc on ne peut pas juger à partir du seul mot islam. Ça en revient toujours à cette liste de mots qui n'a pas de sens, mais ce sont vraiment les mots dans leur contexte, dans leur configuration, donc à l'échelle d'une phrase, d'un texte, qui sont jugés.
J'aimerais vous faire entendre la voix d'un professeur de droit public. Il se prénomme Thomas Hockmann. Il s'exprimait sur la chaîne YouTube Au Poste le 18 mars dernier.
Le grand remplacement. Il serait pas compliqué pour un juge de considérer que la thèse qui consiste à dire que les Noirs et les Arabes sont en train de remplacer la population blanche en France sont des propos qui provoquent à la haine, à la violence, à la discrimination contre des groupes de personnes. Bah, jusqu'ici, les tribunaux, la Cour de cassation considèrent qu'il n'y a pas d'appel explicite en fait à la haine ou à la violence. Donc on peut tout à fait dénoncer le grand remplacement. Il me paraît difficile de constater ça et de dire qu'on ne peut plus rien dire lorsqu'on est d'extrême droite.
Votre point de vue, Anna Arzoumanoff, sur ce point de vue également?
Alors en fait, ce que décrit ici Thomas Hockmann, c'est un changement de jurisprudence. Il se trouve que la Cour de cassation a été plus sévère vis-à-vis de ce type de discours. Il y a quelque temps, il suffisait de susciter un sentiment de rejet pour pouvoir être condamné au nom de la provocation à la haine. Maintenant, il faut une exhortation explicite. Par exemple, si je dis il y a trop de Noirs dans l'équipe de France, il vaut mieux. Enfin, évidemment, je cite des propos.
Vous avez fait le signe des guillemets avec la main.
Voilà, il vaut mieux dire il y a trop plutôt que de dire qu'on les renvoie dans leur pays.
Il vaut mieux, disons, pour pas qu'on nous ennuie. Est-ce que vous êtes d'accord par ailleurs avec cette affirmation très répandue, beaucoup trop répandue, qui dit aujourd'hui on ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que l'axe de la jurisprudence, le prisme des cours judiciaires nous enseigne de ce point de vue-là?
Alors, du point de vue de la justice, c'est une affirmation que je conteste parfaitement, dans la mesure où les juges considèrent hein, que la liberté d'expression est une liberté fondamentale qu'ils essaient de protéger vraiment coûte que coûte, sauf évidemment quand on enfreint la loi, hein, mais dans de nombreux cas, les discours ne sont pas interdits, et puis surtout, ce qui est condamné, ce sont des discours qui étaient déjà condamnés avant, donc pour moi, il n'y a pas véritablement de changement. En revanche, peut-être qu'il y a plus de discours de haine qui circulent.
Ou peut-être une autre forme de censure, mais c'est un autre débat. Julien Bisson.
Et si ce discours « on ne peut plus rien dire » revient, est-ce que cela s'accompagne d'une augmentation des plaintes ?
Alors là, je ne peux pas vous le dire. En fait, ce qui est compliqué quand on travaille sur la liberté d'expression, c'est que la justice en France ne donne très peu de statistiques. Donc, pour vous répondre, il faudrait que je mène une enquête extrêmement précise. Voilà, c'est pour ça que j'aurai une réponse qui n'est pas une réponse. En revanche, je voudrais quand même vous dire sur la question du « on ne peut plus rien dire », c'est ce que vise Thomas Hockmann dans son dernier livre. Il y a un changement de récit et un autre chercheur comme Denis Ramon l'avait déjà montré avant, c'est-à-dire que la liberté d'expression c'est normalement une valeur de gauche et qui désormais est une valeur qui est sans cesse brandie par l'extrême droite. Mais pourquoi ? Pour justifier les discours de haine. Hein. Donc derrière ce « on ne peut plus rien dire », évidemment, qui ne peut plus rien dire ? C'est peut-être les Français blancs ne peuvent pas tenir des propos de haine.
Mais cette pression qui est faite sur la liberté d'expression, est-ce que ça contraint l'appareil judiciaire à s'adapter aux évolutions de société ?
Alors, l'appareil judiciaire est obligé de s'adapter aux évolutions de société, dans la mesure où, par exemple, hein, depuis le 7 octobre, il y a eu une augmentation absolument considérable du contentieux relatif à l'antisémitisme. Donc, ce sont des questions comme ça qui sont traitées par les juges, à savoir, hein, ils doivent essayer de caractériser le mieux possible l'antisémitisme. Est-ce que traiter quelqu'un de sioniste, ça veut dire c'est une injure antisémite, hein, les tribunaux ont à se prononcer là-dessus. Il est arrivé une fois que, au sujet d'Alain Finkielkraut, que l'expression sale sioniste soit considérée comme l'équivalent de sale juif et donc soit considérée comme une injure antisémite.
Des propos qui avaient été adressés contre Alain Finkielkraut. Hein,
contre Alain Finkielkraut, oui, bien sûr. Bien sûr.
Justement, vous avez évoqué deux notions tout à l'heure, hein, l'offense d'un côté, l'injure de l'autre. Comment le droit nous permet de faire la distinction entre ces deux notions ? On a parfois tendance, j'allais dire, à les confondre et à faire comme si elles étaient une et une seule.
Entre l'offense et le préjudice, peut-être.
Entre l'offense et le préjudice. Alors très bien.
Oui. L'idée, c'est que le préjudice, hein, il y a forcément, ça rejaillit sur un individu ou une communauté. Là où l'offense renvoie plutôt à la question de l'opinion. Vous pouvez être heurté dans vos convictions religieuses, donc être offensé. En revanche, il n'y a pas véritablement de préjudice. En tout cas, ce n'est pas reconnu par les tribunaux parce qu'il n'y a pas d'appel à la discrimination.
D'une manière générale, comment est-ce que vous expliquez qu'on aborde si peu cette question de la liberté d'expression à travers le prisme des tribunaux et qu'au fond, il y ait si peu de pédagogie sur la façon dont la justice est rendue sur ce sujet, alors que c'est peut-être le prisme, le truchement le plus véridique, le plus vrai pour comprendre ce qu'est fondamentalement la vision française de la liberté d'expression?
Alors j'ai du mal à l'expliquer, c'est précisément ce à quoi ce livre essaie de remédier, parce qu'on a l'impression, même par exemple, donc Éric Zemmour aujourd'hui a été à la fois condamné dans une affaire, relaxé dans une autre affaire, on a l'impression, quand on voit ça de loin, que les tribunaux font ce qu'ils veulent, parce qu'on a des expressions extrêmement proches, mais on a un travail à partir de critères extrêmement précis qui permettent d'expliquer une relaxe ou une condamnation, mais les citoyens français ne le savent pas. Et c'est bien dommage parce qu'on a une impression d'une justice à deux vitesses ou à géométrie variable.
Julien Bisson.
Quand on parle de juger les mots, vous avez bien dit, une liste des mots serait totalement inutile pour essayer de renseigner la façon dont on va les traiter de façon judiciaire. Mais en parlant du contexte, est-ce que le travail du juge, c'est aussi de deviner l'intentionnalité et donc s'intéresser à l'identité du locuteur, à l'identité de la personne qui a proféré les mots ? Est-ce qu'un même mot prononcé par deux personnes différentes sera jugé différemment ?
Oui, bien sûr qu'il est jugé différemment, ou en tout cas, ça peut jouer contre une personne. Je cite un exemple dans mon livre d'un négationniste notoire qui parle des escrocs juifs, qui a déjà tenu de très nombreux propos antisémites. Ça joue évidemment dans la manière dont les juges tranchent, parce que la personnalité joue dans le sens même des mots, c'est ce qu'on appelle le contexte. Hein. Le contexte, c'est aussi la personnalité du locuteur.
Je le disais en introduction de l'émission, Anna Razoumanoff, vous êtes spécialiste de la liberté d'expression sous l'ancien régime. Alors on pourrait sans doute faire 1, 5, 15 émissions sur ce sujet extrêmement vaste, mais quels sont concrètement les objets de recherche quand on travaille sur la liberté d'expression sous l'ancien régime? C'est une question de pure curiosité personnelle.
Alors c'était mes sujets de recherche il y a longtemps, c'est quand j'ai fait ma thèse, donc maintenant je suis passée au contemporain. J'ai travaillé sur la question des libelles sous l'ancien régime, qui sont tous ces textes qui diffament la famille royale, qui étaient publiés notamment en Hollande dans le milieu protestant, qui était contre à partir du règne de Louis XIV hein, et de cette fuite massive de protestants en Hollande, donc qui décrivait les mœurs dissolues de la France et de la cour de France.
Voilà. Merci beaucoup Anna Razoumanoff pour ces explications claires, limpides. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant au demeurant, Juger les mots, liberté d'expression, justice et langue. C'est chez Actes Sud dans cette nouvelle collection intitulée La Compagnie des Langues. Et rappelez-nous peut-être, Julien, ce que l'on trouve cette semaine en une de l'hebdomadaire Le 1.
Eh bien, Trump en grand format, va-t-il tuer la pensée?
Merci beaucoup à tous les deux, Anna Razoumanoff, maîtresse de conférences en linguistique et littérature française, et Julien Bisson, directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1.